dans cet épisode du balado compte complet.
Est-ce que l'équipe n'aura pas la responsabilité de dire, regarde bien, là, arrête de nous cacher ce que t'as, là, on va prendre le temps qu'il faut. C'est là, Marc, où je pense que l'équipe devrait mettre son pied à terre.
Écoute, est-ce que tu t'imagines David Dombrowski aller dans le vestiaire et dire « Hey Bryce, là, c'est assez, là, on va prendre un petit 2 semaines de repos. » Imagine-toi le regard que va recevoir Dombrowski. Là.
Au jeu! Compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balle. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, c'est notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Marc, il s'est passé pas mal de choses dans la centrale de la Ligue américaine en une semaine seulement. Je pense seulement aux Royals de Kansas City qui sont venus à un cheveu de balayer une série de 4 matchs à Cleveland. Et finalement, ben, qui se retrouvent à la fin de la semaine, Grosjean comme devant après avoir été balayé par les Astros de Houston.
Ben, c'est comme si, tu sais Alain, tu te retrouves dans une série qui est très émotive où il y a beaucoup d'action. Effectivement, on sent le premier rang où il touche là, avec cette série de 4. Puis là, ben on perd le dernier match. Puis là, pouf, tout tombe. Et là, on perd cette série contre les Astros. Remarque que les Astros, c'est pas un mauvais club. Mais ouais. On a appris la mauvaise nouvelle, la blessure à Pasquantino. Donc, on a été obligé de bouger beaucoup du côté des Royals. Mais ça reste une division extrêmement serrée. J'adore, moi, cette course parce que, tu sais, évidemment, les Guardians causent une surprise depuis le début de l'année en raison de leur attaque. Et là, les Royals avec, bon, Bobby Witt Jr. et compagnie. Alain, rappelle-toi encore une fois, tu les avais vus, bon, nettement améliorés, peut-être pas autant, mais ça reste que c'est une belle surprise. Et les Twins, qui devaient, sur papier, être la meilleure équipe, ben, se retrouvent quand même à juste 3 matchs et demi. Donc, on a vraiment droit à une belle course. Mais, tu sais, septembre arrive, ce sont pratiquement tous des matchs de série pour ces équipes-là, là, d'ici la fin de la saison, pour être capable, évidemment, de gagner le titre de la division et se donner, tu sais, une meilleure option là pour faire les séries.
Écoute, chez les Royals, Marc, je ne sais pas si ça peut avoir une incidence, là, mais on a perdu un gros morceau avec Vinny Pasquantino. On sait que c'est un peu à l'image des Guardians. Là, on a fonctionné à 3 joueurs. Les Guardians, on l'a dit souvent, Naylor, en compagnie de Kwan et de José Ramirez. Ce sont ces 3-là qui ont transporté l'équipe du côté des Royals. Ben, ça a été Bobby Witt avec Salvador Perez et Vinny Pasquantino. Sauf que là, on perd un très, très gros morceau, Marc. On a acquis 3 joueurs. Ça n'a rien coûté. Yuli Gurriel, Tommy Pham, les deux étaient de la formation partante lors du match de dimanche, le 1er septembre. Et l'autre, c'est Robbie Grossman pour se donner un petit peu de profondeur. Écoute, au sein de l'équipe, bon, puis l'autre chose, c'est que Kansas City affronte à nouveau Cleveland en début de semaine. Je ne sais pas si on avait la tête ailleurs pendant cette série-là contre les Astros, mais je veux rien enlever aux Astros qui jouent très bien en passant, puis Alvarez qui est en train de transporter l'équipe. Mais j'ai l'impression que ce serait presque normal là, que le niveau d'intensité ait été un peu plus bas face aux Astros.
Ben, c'est comme je mentionnais, tu sais, il y a tellement d'énergie dans, tu sais, et d'émotion dans le fond là, face aux Guardians qu'on en a peut-être perdu un peu. Puis tu l'as dit, c'est pas anormal du tout cette situation là. Ce qui était intéressant pour Kansas City, bon, tu as parlé de la blessure de Pasquantino, on a réagi, il fallait réagir rapidement parce que si le joueur ne joue après le 1er septembre, il n'est plus admissible après pour les séries. Donc, on devait quand même bouger rapidement. Oui, il y a des transactions après la date limite. Faut juste souligner, Alain, que les transactions impliquent des joueurs qui ne sont pas sur la liste des 40 joueurs. Alors, ouais. Si le joueur n'est pas sur la liste des 40 joueurs, donc cette fameuse liste de protection, si vous voulez, on peut échanger. Gurriel ne faisait pas partie de la liste des 40 joueurs, donc c'est pour ça qu'il se retrouve avec les Royals de Kansas City. Mais, tu sais, tu t'appelles Bobby Witt, tu t'appelles Salvador Perez, au moins tu vois ton organisation bouger. On sait, il n'y a pas la date limite des transactions des joueurs sur la liste des 40, il n'y a plus cette option-là. Tu vas chercher un Tommy Pham qui a quand même une bonne réputation. Tu vas me dire que c'est sa 9e équipe, mais ça reste qu'un gars qui est capable de donner un coup de main. Bon, Gourriel en Syrie, on sait, avec les Astros, même s'il a beaucoup ralenti, ce qu'il peut amener. Tout ça pour dire que je trouve que le message est bon. L'organisation veut bouger, l'organisation veut se donner des outils. Tu as parlé de la prochaine série qui s'en vient encore contre les Guardians. Ouais. On est là chez les Royals. On voit, les séries là sont à portée de main. Moi, j'aime le fait qu'on bouge, qu'on est actif. Extrêmement décevant de perdre un producteur de points comme Pasquantino, mais on est là. Je pense que les vétérans qui viennent de s'ajouter vont certainement donner, je dirais pas un deuxième souffle, mais certainement leur donner un peu d'espoir là, pour continuer sur cette belle lancée là, pour le dernier mois de la saison.
Bon, Dalton Gurriel, Marc, il a passé la saison au niveau 3A. Il n'a pas joué dans les majeures cette année. Il appartenait aux Braves d'Atlanta. 40 ans. Il avait une bonne saison au niveau 3A. C'était un des meilleurs frappeurs avec la filiale 3A des Braves. Je regardais son MPP et 100 points de plus que la moyenne de l'équipe. Tu sais, Marc, au niveau 3A, dépendant de la ligue ou de l'équipe dans laquelle, dans l'atmosphère dans laquelle on joue, ça peut être trompeur, les statistiques offensives. Surtout dans les équipes de la Ligue du Pacifique. C'était pas le cas avec Gwinnett, avec les Stripers. Donc, dans le cas de Gurriel, il y a quand même une production intéressante au niveau 3A, ce qui démontre que, bon, il en reste peut-être un petit peu. Les Royals, tout ce qu'ils souhaitent, eux, c'est qu'il en reste peut-être pour 3 semaines. Donc, on a fait nos devoirs là, en faisant son acquisition. On va parler un petit peu des Twins, Marc, parce que c'était l'équipe favorite quand ça a commencé cette saison-là. Ils ont failli perdre la série contre les Blue Jays de Toronto. N'eût été de Royce Lewis avec un circuit tardif dans le match de dimanche. C'est tendance chez les Twins. Il a l'impression qu'on n'a pas encore été capable de prendre notre envol chez les Twins du Minnesota avec une équipe talentueuse. C'est vrai qu'il y a des absents. C'est vrai qu'il y a des absents importants. Correa, Buxton. Mais c'est quand même, tu sais, même quand ils étaient là, on n'a pas l'impression que cette équipe-là est en pleine confiance en 2020.
Non, puis je suis pas sûr, Alain, qu'on a joué une tonne de matchs avec toute la formation, tu sais, du début de saison. Tu as parlé des blessures de Lewis, Buxton et compagnie. Tu sais, pas certain là, qu'on a joué une tonne de matchs, là, toute l'équipe ensemble. Il y a quand même des belles surprises du côté des Twins. Là. Il y a des rendements. Là. Miranda qui est revenu, qui a vraiment donné un coup de main. Donc, il y a des moins bonnes, il y a des bonnes histoires, mais tu as raison, ça donne à la fin un peu d'inconstance dans le rendement. On a eu une couple de séquences intéressantes, mais tu sais, on n'a pas eu la séquence vraiment, là, je sais pas moi, de 15 en 20, là, 15 victoires en 20 matchs. On cherche encore. Moi, écoute, t'as pas besoin là de. Tu regardes un match où, en fait, tu regardes une série, là, une série de 3, là, par exemple, des Twins. Mm-hmm. T'as effectivement pas l'impression qu'on est encore toutes là. Il y a un potentiel qui est là, mais on n'est pas encore capable de jouer la balle qu'on devrait jouer. Et là, il se fait tard, mais il reste assez de temps pour être capable. Tu sais, puis Alain, je le dis souvent, lorsque t'arrives, faut que t'arrives en série. C'est évidemment si tu fais les séries, là, mais faut que t'arrives dans le dernier droit sur une bonne séquence, parce que tu sais, t'as beau me dire, là, OK, c'est une nouvelle saison, on recommence, on met le cadran à zéro. Marche pas nécessairement toujours comme ça dans ces situations-là. Donc, j'aimerais voir les Twins avoir cette constance, mais bon. Convaincu, Alain, qu'on va avoir droit à une très, très bonne fin de saison dans cette division-là. Moi, je pense pas qu'une des trois équipes va se mettre à avoir une très mauvaise séquence puis se retrouver à 6-7 matchs. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une belle lutte à 3 d'ici la fin, là.
Mais ce Kansas City va avoir une grosse semaine, c'est le temps, Marc, parce qu'après Cleveland, ce sont les Twins. Donc, si tu veux avoir une semaine pour te mettre en marche, là, ce serait la bonne. D'ailleurs, les Royals et les Guardians, mercredi, on va les voir à RDS. On va parler d'une équipe de la Nationale, Marc, qui, sans faire trop de bruit, est en train de mêler les camps. Ce sont les Cubs de Chicago. Je regardais un petit peu, il y a quelques joueurs qui ont apporté une contribution qui n'est pas négligeable. Le réveil de Dansby Swanson, tellement, Marc, qui n'a pas frappé 6e en fin de semaine, on l'a mis 2e. Donc, il est en train peut-être de se passer quelque chose avec les Cubs.
Ben, écoute, il a du talent. Puis, évidemment, on lui a donné le gros contrat pour Swanson. Il a du talent. Tu sais, je regardais Pete Crow Armstrong au cours des derniers jours. Ce gars-là met une balle en jeu. Il est spectaculaire sur les buts. Excellent comme voiture de centre. Donc, ta ligne de centre en défense aussi est excellente là, du côté des Cubs. Il y a des arguments pour que cette équipe-là aurait pu, là, évidemment, nous été d'une saison remarquable des Brewers. Mais c'est fascinant de voir ce qui se passe avec les Cubs de Chicago présentement. Puis, s'il y a une division où tu peux... ben, une division, évidemment, là on se fie que pour les équipes repêchées, mais on a 6 victoires de suite présentement. Là, alors, si on est capable de, de poursuivre sur une certaine séquence, écoute, on peut déranger, là, parce que moi, ce sont les Braves qui m'inquiètent. On en a déjà parlé, là, les Mets qui s'en viennent. Alors ça, c'est les Cubs sont dedans, là.
Écoute, les Braves ont un match ce lundi matin, un match d'avance sur les Mets de New York, mais je regardais, le calendrier des Braves leur est très favorable d'ici la fin de la saison. La majeure partie des matchs à domicile, avec des équipes très prenables. Si les Braves l'échappent, Marc, ça va être de leur propre faute. Je veux dire, oui, on a des blessés, mais en regardant le calendrier, il n'y a pas d'excuse que les Braves ne parviennent pas à se lancer pour les séries.
Ben, surtout si leurs lanceurs partants continuent de faire ce qu'ils font présentement. Ouais. On est dans une séquence incroyable. On n'accorde pas de points. Là. C'est 3 points au moins. Là. Mm-hmm. Moins de points mérités qui est en deçà de 3 pour les partants au cours des 3 dernières semaines. Alors, effectivement, tu sais, mais Solaire, c'est pas le même joueur qu'en 2021. Hein? Puis, faut se fier à quelques joueurs. Mais écoute, tu as raison de mentionner qu'ils ont leur destin entre leurs mains là, en ce moment. On n'a pas à se fier à d'autres équipes pour leur permettre de s'assurer une place en série.
Oui. Bon, c'est temps de la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. Qui va remporter le titre de la centrale de la Ligue américaine? Rien n'est joué. Cleveland, des hauts et des bas. Minnesota, la même chose. Kansas City, dynamique, mais on vient de perdre un gros joueur. Même si on a probablement le meilleur personnel de partant chez les Royals, avec une grosse semaine. Donc, envoyez-nous, vos commentaires sur cette question et, évidemment, votre opinion. Vous pouvez le faire sur notre page Facebook, facebook.com/complet balado, ou encore, vous pouvez aller directement sur notre site Internet, complet.com.
Alain, je vais juste prendre quelques instants pour souligner évidemment notre partenaire principal, Plan de Match, les remercier de leur confiance. Plan de Match est une boutique de baseball à Boucherville. Tout ce que vous avez besoin en termes d'équipement de baseball, c'est ici que ça se passe. Cage de frappeur, cours privé. Il y a même Prestige Baseball qui est une nouvelle académie ici. Donc, allez vous renseigner sur le site de Plan de Match et la boutique en ligne également. Et je vous rappelle, la meilleure façon pour nous écouter ou nous regarder ou savoir ce qui se passe avec notre balado, allez sur notre site Internet www.comptecomplet.com.
Marc, on va prendre le temps pour parler un petit peu de la situation des joueurs de baseball. Ça peut s'appliquer au sport professionnel au complet. Les joueurs qui veulent continuer de jouer malgré des blessures. Ce qui nous a amené un peu à parler de ça, c'est notamment dimanche, on a vu Bryce Harper, on a parlé de son terrible mois de juillet, de son mois d'août qui a été un peu mieux, mais certes pas à la hauteur de ce que Bryce Harper a présenté depuis le début de sa carrière, même en début de saison. Donc, c'est pas une question d'âge dans son cas, c'est vraiment une baisse drastique de production. Lui-même, de son propre aveu, il est pas à 100%, il y a toutes sortes de bobos, mais il s'est dit, quand les séries vont commencer, je vais être correct. Tu t'en as déjà parlé, il y a beaucoup de pression chez les joueurs professionnels de produire, puis certains vont dire, quand t'as un gros contrat, tu pourrais te reposer, t'as pas à jouer pour ton contrat, sauf qu'il y a une obligation qu'on sent chez les athlètes professionnels, Marc, on veut produire. Je pense à Josh Hader, une fois qu'il a eu son gros contrat, avec les Brewers, vous m'utilisez pas comme vous voulez, mais avec Houston, c'était tout le contraire. Les choses, vous êtes engagé envers moi, je m'engage envers vous, vous faites ce que vous voulez avec moi, je vais tout faire pour aider l'équipe. Donc, comment gérer tout ça, Marc? Est-ce que les équipes devraient pas être plus proactives dans le processus décisionnel?
Écoute, c'est un excellent débat, Alain. Ça remonte évidemment c'est au début du siècle. Rappelle-toi l'histoire de Wally Pitt. C'est l'histoire qui fait que c'est peut-être que tout a changé. L'histoire de Wally Pitt, c'est quoi? C'était le premier but des Yankees de New York, qui allait très bien. Ouais. Puis soudainement, l'histoire, je sais pas si elle est romancée, Alain, mais un bon dimanche après-midi, un mal de tête, veut pas jouer nécessairement. Pourtant, un match important à Yankee Stadium qui est rempli. Puis finalement, il veut pas jouer, il file pas. Donc, on va voir un petit gars dans le vestiaire qui s'appelle Lou. Il dit, Lou, tu joues au premier bout aujourd'hui. Là, notre Wally est pas capable de jouer. Et ça a été le début de la séquence de Lou Gehrig. Alors, ça, c'est on dirait que tu arrives dans le baseball professionnel, Alain, ça tu sais, je veux dire, moi, c'est une des premières histoires là, que j'ai connues à mon premier camp d'entraînement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es blessé, parle-en pas, parce que si quelqu'un prend ta place, ça se peut que ta place, elle sera plus là à ton retour au jeu. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, j'étais un voleur de but, je me souviens, j'étais 16-16 pour amorcer le début de la saison, mais le 16e, je suis rentré fort au coussin, là, je glissais les pieds devant, et j'ai senti quelque chose dans mon genou. Et là, je voyais que j'avais moins d'explosion pour mes départs. Donc, j'ai commencé à moins voler, ce qui me rendait un peu moins efficace, mais sauf que je voulais pas sortir de la formation pour, tu sais. Puis finalement, ben, c'est parce que quand tu as une blessure au baseball, par exemple, au genou, si t'es un voleur de but, ben, tu sais, c'est que t'as pas de repos. Donc, tu traînes ça pendant des semaines. Alors, si t'es un bon frappeur, pis t'as mal au poignet, t'as mal à une main, t'as mal à un, t'es un, tu sais, je veux dire, bon, les lanceurs ont aussi, là, t'as mal à une épaule, t'as mal à un coude. C'est pas évident. Parce que, tu sais, le soigneur a beau se douter, le gérant a beau se douter, il faut que ça vienne du joueur, tu sais, il faut que ça vienne du joueur. Puis, je vais remonter un peu à l'histoire d'Éric Gagné rapidement, parce que j'ai participé à, évidemment, à ses, à, lorsqu'on avait fait le documentaire sur Éric, et il disait, moi, je venais de signer le gros contrat, puis je voulais plaire à mes patrons, puis je voulais plaire aux partisans, puis les partisans s'attendent à ce que je sois là lorsque les Dodgers mènent en fin de match, ce qui a peut-être amené Éric à prendre des décisions, bien évidemment, qui ont fait en sorte que, bon, ça le nuit un peu par la suite, mais l'objectif premier, c'était de dire, moi, faut que j'en donne à mon équipe. J'ai signé le gros contrat. Alors, les joueurs blessés, tu sais, tu parles de Bryce Harper. Moi, je suis convaincu qu'un gars comme Greg Olson, Alain, cache quelque chose. Tu sais, est-ce que c'est, tu sais, ça peut être un petit problème à un mollet, ça peut être un petit problème à une cuisse, ça paraît pas trop. Mais là, tu compenses. Puis là, si tu compenses, ben, t'as peut-être pas toutes les jambes que tu veux dans ton élan. Donc, oups, soudainement, moins de puissance. Est-ce que c'est le cas? Peut-être, peut-être pas. Mais moi, je suis convaincu que des gars qui ont des baisses de régime comme ça, c'est que ça cache une blessure. Alors là, elle est où la zone de se dire, ben là, j'en parle parce que là, mais si j'en parle, ben ça se peut que je manque la prochaine semaine ou les prochaines deux semaines, mais là, mon équipe a besoin de moi, là. Puis surtout les attentes, par exemple, vis-à-vis les Phillies ou les Braves dans le cas de ce qu'on parle. Alors, c'est un jeu qui est pas évident à jouer. Il y aura jamais une science exacte, mais tu sais qu'il y a une nouvelle technologie qui s'en vient, qui est appliquée au basketball. Pour dire le temps de jeu qu'un joueur a, écoute, c'est même, ça va jusqu'au le nombre de pas de course, par exemple, qu'un voltigeur va faire pour se rendre à sa position, pour revenir, s'il va le début. Puis à un moment donné, ben, il va avoir une petite zone rouge qui va dire, inquiète, lui, il est plus susceptible à une blessure. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que ça va aider éventuellement? Peut-être. Mais toujours est-il que c'est le grand défi. Puis là, on parle de baseball, tu as raison de dire que ça peut s'appliquer dans bien des sports, mais au baseball, particulièrement, c'est que même. C'est même un ongle. Imaginez, là, vous êtes un lanceur, vous faites mal à un ongle, ça peut vous empêcher de lancer un tir en particulier. Alors, c'est pas que les gars sont fragiles, c'est juste que ça peut avoir un impact quand même assez important sur le type le style du joueur en particulier. Puis là, le rendement est affecté. Puis tu sais, un Harper qui va moins bien, ben soudainement. Le gars qu'on affronte avant, ben il va avoir des tirs plus difficiles parce que là on pense qu'on peut retirer Harper maintenant. Donc tu sais, l'impact est important, tu sais, pas juste sur le joueur, sur l'équipe, mais sur les coéquipiers aussi. Donc c'est vraiment, je pense, que c'est important de souligner cet aspect-là du jeu là aujourd'hui, le contenu du rendement de gars comme Harper entre autres choses.
Il y en a plein d'exemples, Marc, de joueurs là qui en raison de blessures, il y a quelqu'un qui a pris sa place. Russell Martin, regarde sa carrière avec les Dodgers comme receveur régulier a commencé probablement une année ou deux avant ce qui était prévu dans le plan des Dodgers. C'est Dionel Navarro qui était le receveur d'avenir, qui était plus jeune que Russell Martin en passant. Puis, une blessure à Navarro et Russell n'a jamais perdu son poste par la suite. Donc, c'en est un exemple de ce qui peut arriver. Mais dans le cas d'un gars comme Harper, puis je reviens à ce que je disais tantôt, est-ce que l'équipe n'a pas la responsabilité de dire, regarde bien, arrête de nous cacher ce que tu as, là, On va prendre le temps qu'il faut. Puis les Phillies étaient en mesure de le faire avec l'avance qu'on avait au sommet de la section Est. Est-ce que l'équipe doit pas prendre plus de responsabilités là-dedans, même si on veut que Harper soit sur le terrain? Mais à un moment donné, quand ton MPP est en bas de 600 pendant une période qui se prolonge, c'est là, Marc, où je pense que l'équipe devrait mettre son pied à terre.
Mais écoute, est-ce que tu t'imagines David Dombrowski aller dans le vestiaire et dire « Hey Bryce, là, c'est assez, là, on va prendre un petit 2 semaines de repos. » Imagine-toi le regard que va recevoir Dombrowski. Tu sais, je dis pas que le joueur décide de tout, mais tu sais, je veux dire, encore une fois, c'est le joueur qui doit dire ce qu'il ressent. Pour répondre à ta question, une organisation pourrait le faire, mais tu sais, encore une fois, c'est une relation, tu sais, faut communiquer, faut savoir, tu sais, c'est quoi la meilleure solution, mais le joueur voudra pas sortir de la, surtout pas un joueur comme Harper, voudra pas sortir évidemment de cette formation-là. Maintenant, lui, il dit, il va être fin prêt. Est-ce qu'on va lui donner? On verra au cours de la prochaine semaine, là, en fait, dans le dernier mois. Est-ce que Harper va avoir une journée ou deux de congé par semaine? Ça, c'est peut-être l'indication, une indication des. Mais je pense qu'on veut quand même. Moi, je pense que le repos, Alain, va arriver lorsqu'on va confirmer c'est quoi leur avance. Là. C'est 6-7 matchs là, ce matin, là, de la part des Phillies. T'sais, on va rentrer en septembre, moi je pense qu'on va attendre de confirmer notre place. Oui. Puis là, tu vas voir un gars comme Harper prendre probablement un 3-4 matchs de repos là, avant le début des séries. Moi, c'est ce qui va arriver selon moi.
Oui, mais attends une seconde, Marc, parce qu'on est dans une course avec les Brewers et les Dodgers aussi. Là. Est-ce que tu veux jouer la première série? Présentement, là, les Dodgers ont un match d'avance sur les Phillies et 2 sur les Brewers. C'est extrêmement serré entre les 3 équipes au moment où on se parle.
Ah, t'as raison. Ouais, effectivement, t'as raison. T'as raison, puis voilà pourquoi il faut complètement analyser la situation. OK, oui, on gagne le titre de notre division, mais oubliez pas là, comment fonctionnent les séries. Il faut juste le rappeler. Là. C'est que, évidemment, par ligue, il y a 3 meneurs de division, mais les 2 meilleurs, c'est eux qui ont le fameux bail. Mm-hmm. Et la troisième, va jouer le fameux 2-3.
Oui.
Alors, c'est important. Maintenant, l'autre débat qu'on aura un peu plus tard, Alain, c'est est-ce que tu... Tu sais, le fameux repos n'a pas aidé les équipes au cours des dernières années. Est-ce que tu veux être l'équipe qui joue finalement le 2-3 ou tu veux avoir ton repos? Alors, bon, en tout cas, et logiquement, tu veux ton repos, mais je fais juste dire que le succès de ces équipes-là n'a pas été nécessairement présent là, lors des dernières... En fait, depuis qu'on a instauré ce système-là.
Oui, écoute, Marc, ce débat-là est intéressant. Moi, je pense qu'il y a tellement de facteurs à considérer. Le statut du joueur, comme on a mentionné, un gars comme Josh Hader, par exemple, qui avait établi la façon dont il voulait qu'il soit utilisé avant d'avoir son gros contrat. Une fois que tu l'as, bon, ça dépend du joueur. T'as un Anthony Rendon, par exemple, qui dit carrément le baseball, c'est pas ma priorité. Et t'en as d'autres. Bon, il y en a peut-être d'autres pour qui c'est le cas, mais au moins, ils ont la décence de pas le dire. Et comme Bryce Harper, ben lui qui veut être sur le terrain pour justifier justement son contrat. Bref. T'sais, d'un joueur à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Un Juan Soto, par exemple, qui devient joueur autonome, bon, ses performances, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais un autre, par contre, qui n'a pas le CV de Juan Soto, mais par contre, qui a besoin de gros chiffres, qui a besoin de jouer pour avoir des chiffres à son autonomie. Comme je te dis, Marc, il y a tellement de facteurs différents d'un joueur à l'autre. Je pense que c'est du cas par cas, là.
Mais c'est pour ça, Alain, que c'est pas facile d'être un gérant du baseball. Ouais. On a beau faire des blagues, des fois, le gérant décide de rien, mais je m'excuse, mais le gérant, son rôle, c'est de s'assurer que c'est 26, puis maintenant, on est rendu à 28 joueurs là en septembre. Mais c'est que tout le monde, lui, c'est une tape dans le dos, lui, c'est un coup de pied dans le derrière que ça lui prend, lui, il faut lui parler de telle façon, lui, l'utiliser de telle façon. C'est tout un casse-tête, là. T'sais, tu comprends, c'est tout un casse-tête. Ouais. On gère 28 PME pratiquement, là, puis comment on peut les satisfaire chacun pour un but commun. Fait que ce ne sont pas des rôles qui sont évidents là, à jouer. C'est pour ça que le gérant, tu sais, certains disent « Hey, c'est rendu des marionnettes ». Non, il y a quand même des rôles importants à jouer pour ces gars-là. Puis c'est justement pour être en mesure de s'assurer que chacun des styles de joueurs dont tu as fait mention, ben on est capable d'amener ça là, pour que l'équipe, évidemment, en sorte gagnante.
Oui. Ben écoute, on va passer à la carte de la semaine. C'est une présentation de cartes-union-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On va parler d'une, sinon la première équipe établie, professionnelle, les Athletics de Brooklyn. Et la carte, c'est une carte de visite. Pas compliqué, il n'y avait pas de ligue établie. Ce que les Athletics de Brooklyn faisaient, dans le fond, c'est qu'ils vendaient leurs services. C'était une attraction comme un cirque. Puis leur carte, ben tiens, ça vous tente de divertir votre communauté, ben nous, on est disponible pour jouer contre l'équipe là, de baseball de votre patelin. C'est la plus vieille carte, en tout cas, c'est celle qui est reconnue comme étant la plus vieille carte de baseball qui a été publiée. Il n'en resterait que trois. 1860. Donc, on est à la veille de la guerre civile américaine. Et trois exemplaires, ça veut dire, Marc, dans les prix que j'ai vus, ça peut partir de 50 000 $ jusque dans les six chiffres. Et il y en a un exemplaire qui est à Cooperstown, au Temple de la Renommée. Pour dire, Marc, on est au balbutiement là, des équipes de baseball qui s'établissent. Et comment ça a commencé, Marc? Ben, c'est des clubs sociaux qui s'organisaient en équipe de baseball là, qui, bon, dont les règles restaient à établir. Mais ce sont des clubs sociaux un peu huppés qui avaient commencé à jouer. Puis, de fil en aiguille, ben, la compétition étant ce qu'elle est, ben, là, on a voulu avoir des meilleurs joueurs, tu comprends, qui n'étaient pas nécessairement des membres du club social, mais là, on les dit, ben, viens-t'en donc avec nous autres, puis, tu sais, en prenant des meilleurs athlètes, et à un moment donné, ben, on a commencé à les payer parce qu'il y a des clubs qui se sont formés. Puis, en 1871, ben, est venue la première ligue professionnelle officielle, et en 1876, six ans plus tard, c'était la fondation de la Ligue nationale de baseball. Comme quoi, Marc, ça prend pas grand-chose. Tu sais, quand tu regardes comment c'est parti là, d'un club social jusqu'à une entreprise aujourd'hui multimilliardaire, là, c'est quand même fascinant de voir l'évolution, en tout cas, du sport professionnel sur cet angle-là.
Ouais, moi, c'est ce qui me fascine, effectivement. C'est toute l'histoire derrière, comment tout ça a commencé. Il fallait avoir une certaine vision. Là. Je sais qu'à l'époque, c'était très différent, mais... bravo, en tout cas, moi, bien heureux que ces gens-là aient eu cette vision-là.
Ouais.
Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec un magnifique sport qu'on apprécie beaucoup.
Oui, les Athletics, la première équipe donc qui vendait ses services. Je suis pas sûr que le premier club social, par contre, s'attendait à ce que ça se développe de cette façon-là.
C'est maintenant le moment de notre segment Baseball Québec. Ben, vous savez, les saisons des championnats provinciaux et des championnats canadiens sont terminées, mais le baseball se poursuit. Puis c'est une catégorie, Alain, qu'il ne faut pas oublier, c'est la catégorie B. T'sais, on parle souvent des bon de l'excellence, des joueurs ci, des joueurs. Puis c'est fameux, c'est extraordinaire. Mais vous savez que la majorité des joueurs jouent dans ce qu'on appelle du baseball local. Alors, du A et du B. Et Baseball Québec a eu l'idée là, de partir les super régionaux. Alors, vous savez, ben, quand vous jouez localement, dans le A ou dans le B, ben, vous jouez souvent contre les mêmes équipes. Mais là, on a décidé de dire, ben, regardez, même si on joue dans le B, on va s'organiser des super régionaux. Et ça commence en fin de semaine et ça se passe dans 10 régions différentes. Alors, bravo pour cette initiation-là. Donc, le 11U, ça va se passer à Saint-Hyacinthe, à Pierrefonds, à Lévis-Centre et à Saint-Eustache. Le 13U à Alma, à Rimouski, à L'Assomption et à Verdun. Le 15U et le 16U féminin à Shawinigan, à Saint-Honoré et à Repentigny. Et le 18U et le 21U féminin, ben, ça va se passer dans le Grand Rosemont et dans la région de Laval. Alors, ça, c'est extraordinaire parce que c'est la masse. Tu sais, il y a près de 40 000 jeunes là, qui jouent au baseball, sinon plus. Et il y en a beaucoup de ceux-là là, qui c'est la masse. Alors, bravo pour l'initiation de Baseball Québec. D'ailleurs, je vous rappelle aussi pour aider à organiser ces championnats, pour aider les jeunes. On a toujours ce 50-50, ce moitié-moitié. En fait, la balle d'or, allez sur le site labaledor.com et allez, évidemment, miser là-dessus. C'est, vous savez, le moitié-moitié partout où vous allez, là, dans les ligues juniors ou dans les ligues élites ou dans le baseball majeur, il y a toujours le fameux moitié-moitié. Bien, il y en a un virtuel avec Baseball Québec. Alors, allez sur labaledor.com, allez mettre un petit 2 ou 5 $ et ça va aider pour le baseball amateur. Ça va aider tous les jeunes du baseball amateur.
Marc, je veux t'entendre sur la décision des Pirates de Pittsburgh de convertir O'Neill Cruz de joueur d'arrêt-court à voltigeur de centre. La réaction n'a pas été très positive de la part de Cruz lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle. Écoute, moi, j'ai de sérieux doutes C'est un des bras les plus puissants du baseball majeur, O'Neill Cruz. Oui, il a de belles qualités athlétiques, mais je me demande si son bras ne serait pas mis davantage à profit là où il est à l'arrêt court. Bon, les Pirates l'ont vu jouer pendant quoi? Bon, saison complète, il a raté presque toute la saison l'année passée. On a quand même, bon, un échantillon intéressant. Les Pirates, j'imagine, bon, en sont venus à cette conclusion avec des données concluantes. Mais, tu sais, je suis quand même, tu sais, je me pose des questions sur cette décision-là, moi, des Pirates de Pittsburgh.
Ben écoute Alain, là tu parles d'un gars qui a joué au champ centre pas mal toute sa carrière. Je vais valoriser ma position. Ouais. Moi, j'haïs pas le geste.
Ouais.
Ça veut pas dire qu'il jouera plus jamais à l'arrêt court, là, soit dit en passant là. Mais le joueur d'arrêt court est souvent le meilleur athlète d'une équipe. Tu regardes dans le Pee-wee, dans le Bantam, peu importe si tu appelles ça 13U, 15U. Souvent, ton joueur d'arrêt court est un très bon athlète qui peut s'ajuster, s'adapter, aller jouer à n'importe quelle position. Ton bras au champ centre est... Tu vas me dire qu'il y a plus de jeux d'un joueur d'arrêt court, absolument, mais ton bras au champ centre est extrêmement important. Là. Je veux dire, ça fait partie des forces d'un joueur. Moi, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe avec ça. Est-il capable de s'ajuster? Moi, je suis convaincu que oui. Juste regarder ce que Jackson Merrill fait avec les Padres de San Diego. Il y a plusieurs exemples. Mais le plus important dans cette décision-là, c'est qu'il faut que le joueur y croit. Si le joueur n'y croit pas, ça marchera pas bien. Ça n'ira pas bien. Tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Moi, j'enseigne à beaucoup de frappeurs. Si je dis à un jeune, Alain, si je te dis... Garde, moi, je pense qu'il faudrait que tu lèves tes mains. Puis toi, tu lèves tes mains, puis tu te sens pas bien. Là. T'aimes pas ça. Là. Même si tu sais que ça peut être bon pour toi, t'aimes pas ça. Ça marchera pas. Là. Dans ta tête, t'es en train de dire que ça marchera pas. Tu comprends? Donc, dans ce cas-ci, il faut qu'on ait le cruise, puis j'ai vu les réactions aussi, il faut qu'on ait le cruise, dise, ben parfait, je vais y aller, je vais l'essayer, si c'est bon pour l'équipe, parce que ça peut être juste bon pour lui. Regarde Mookie Betts, capable de jouer à l'arrêt court au deuxième but, au champ droit. Ça peut aider les Dodgers dans des moments où tu en as besoin, justement. Donc, moi, je pense qu'il faut pas être trop égoïste. Tu sais, il faut toujours jouer pour le nom en avant et non le nom en arrière. Là. Mais va l'essayer. Puis si ça peut permettre aux Pirates d'être une meilleure équipe, parce qu'on va mettre un joueur d'arrêt court qui est peut-être un petit peu plus stable en défense, parce que Cruz, malgré... C'est juste spectaculaire. Il a commis quoi, 25 erreurs cette année? Là, faudrait... Bon, alors, alors moi, je pense que c'est correct. Puis tu l'as dit tantôt, on a des données pour appuyer cette décision-là. Mais moi, là, un joueur, surtout dans le baseball moderne, quand tu as une certaine polyvalence d'aller jouer à deux positions clés, la ligne du centre, ton bras va être quand même très utile aux chansons. Je m'excuse, il n'y a pas grand monde qui vont courir sur O'Neill Cruz, là, surtout si rapidement il démontre qu'il y a, y a la précision là-dessus. Moi, j'ai pas de problème avec cette décision-là. Ça valorise aussi la position de chanson. C'est sûr que le joueur d'arrêt court, c'est le joueur le plus impliqué en défense, mais moi, je n'haïs pas du tout cette décision-là, mais il faut, comme j'ai mentionné, que le joueur y croit. Sinon, ben si lui, il s'en va babouner là-bas au champ gauche, ben ça va faire un Henley Ramirez de lui, puis ça ira pas bien.
Je pense pas qu'on soit là avec O'Neill Cruz. Bon, notre ami Alex Agostino avait comparé à un voltigeur de Ligue du dimanche de softball. Là. Enfin, mais est-ce que ça ne vient pas confirmer, Marc, une observation qu'on a faite cette année quant à l'importance des joueurs en défense, c'est-à-dire qu'on semble donner plus d'importance à la position de voltigeur de centre qu'aux joueurs d'arrêt court?
Ben effectivement, mais encore une fois, Alain, tu sais, on parle de toutes ces fameuses données parce que qu'est-ce que les frappeurs tentent de faire de plus en plus depuis 5 à 7 ans, là? On tente de pourquoi? Parce qu'il y a trois joueurs qui couvrent la moitié du terrain, alors qu'à l'avant-champ, t'en as quatre, si t'inclus le lanceur, c'est cinq, puis tu comprends que si le receveur s'implique, t'en as six. Donc, t'as six joueurs qui, bon. Alors, et évidemment, si tu soulèves la balle, ben, tu peux frapper une balle qui a de la vie, puis qui finalement, elle passe par-dessus la clôture. Donc, c'est sûr que les données, à un moment donné, se disent, ben là, il y a plus de balles frappées au champ extérieur, puis les balles au sol qui percent l'avant-champ sont aussi, bon, récupérées par les joueurs de champ extérieur. Donc, c'est pas fou de voir que finalement, on commence à mettre l'accent chez les voltigeurs, surtout le voltigeur de centre. Regarde les Dodgers, on a préféré garder Kiermaier au champ centre puis laisser aller ouais. Jason Hayward, qui est très, très bon en défense, mais on s'est dit, le champ centre est plus important. Puis si jamais Mookie Betts revient, ben on va le mettre dans le champ droit, fait que ça va nous donner pratiquement deux voltigeurs de centre qui vont couvrir la moitié du terrain. Donc, les Dodgers vont être gagnants défensivement. Alors, on préfère ça parce qu'il y a de plus en plus de balles frappées au champ extérieur. Puis, tu sais, on l'a vu, Alain, dans le baseball moderne, là, il y a plus le fameux gars que tu cachais au champ gauche parce qu'il est pas capable d'attraper ou il couvre pas de terrain. C'est plus vrai aujourd'hui. Je vous dirais que Barry Bonds, en tout cas, dans l'ère que moi j'ai suivi le baseball, c'est Barry Bonds qui a changé un peu tout ça, là, mais ça reste que... Moi, j'aime le fait qu'on met l'accent là-dessus, puis c'est important. Regarde le catch qu'il y a eu de Michael Harris l'autre jour. Tu sais, ça change complètement la donne, là.
Oui. Je pense aussi, c'est que les Pirates ont quelques jeunes au milieu de l'avant-champ à qui on veut laisser une place. Je pense que Nick Gonzalez, on voudrait le mettre à l'arrêt-court, peut-être redonner une chance à Jared Triolo. Il s'est pas connu une très, très bonne saison. Ça avait très bien commencé pour lui. Je pense que cet aspect-là aussi, chez les Pirates de Pittsburgh, là, on voulait donner de la place à certains jeunes au milieu de l'avant-champ. Bon, on va parler d'un moins jeune, Rich Hill, qui revient. Il a jamais annoncé sa retraite. Et avait fait savoir que s'il y avait quelqu'un qui se montrait intéressé, qu'il était ouvert, s'est tenu en forme en étant instructeur dans son coin. Il était dans la Nouvelle-Angleterre. Donc, quand les Red Sox se sont montrés intéressés, Rachel n'a pas fait ni une ni deux. Un match au niveau 3A, puis whoops, il est de retour dans les majeurs pour une 20e saison. Son premier frappeur, Marc, a sorti ses courbes contre un gaucher, puis le gaucher a été retiré sur des prises.
Puis sais-tu quoi, Alain? Je pense qu'il pourrait avoir 50 ans, puis il va retirer encore des gauchers avec une courbe de même. C'est... la seule affaire, c'est que c'est pas un gars qui va lancer plusieurs manches, ou tu sais, ça devient un peu dangereux si on l'utilise un peu plus que 3 ou 4 frappeurs, là, mais... Si t'as besoin d'avoir un gaucher pour retirer un frappeur gaucher important, ben t'as peut-être le gars qu'il faut. Hein. Puis il n'y a pas de cachette, là. Une balle rapide autour de 87, mais une balle courbe qui peut qui bouge de différentes manières. Alors, je veux dire, ça, c'est la preuve que t'sais, un lanceur gaucher peut se recycler pas mal s'il est capable d'avoir une balle à effet de la sorte. Je sais qu'il y a moins d'experts gauchers en contenu des nouvelles réglementations, mais il y en a quand même, là, tu sais, cette année, Alain, on en a fait plusieurs matchs où, tiens, soudainement, c'est sa 40e présence au monticule, puis il y a 42 manches lancées, là. Donc, il y en a encore de ces experts gauchers-là. Et c'est de cette façon-là qu'on va utiliser Rich Hill avec les Red Sox, là, d'ici la fin de la saison.
Oui. Marc, je vais terminer avec un commentaire sur les White Sox de Chicago. On est tombé à bras raccourcis sur cette équipe-là cette année. Non, sans raison, là, on va établir un record d'équipe pour le nombre de défaites. Un record qu'on a déjà égalé et au cours de la semaine, il va être battu. Enfin, au cours des
quatre. Ben oui, il reste un mot.
Bon, ben c'est ça. Ça démontre un peu jusqu'à quel point ils ont été mauvais cette saison. Donc, on les a critiqués avec raison. Mais au cours de la semaine, il y a un match qui a commencé. Gavin Crochette au Monticule, 4 tirs, la pluie s'est mal tombée. On n'a pas repris le match. Ce soir-là, on a décidé de reprendre le lendemain après-midi. Bon, ça veut dire que c'est en l'espace de quoi? Tu sais, en 12 heures, on apprend aux fans, aux amateurs de baseball qui sont, bon, les détenteurs de billets de saison notamment, qu'il va y avoir un match le lendemain après-midi. Il n'y a pas grand monde dans le stade. Le stade est vide le lendemain. Et là, on a vu des photos, évidemment, d'un stade complètement vide avec les deux équipes qui sont sur le terrain. Marc, dans les matchs qui sont repris, il n'y a généralement pas beaucoup de monde dans les estrades. Et là, ce match, non seulement il était repris, je veux dire, c'était annoncé la veille au soir qu'il était pour avoir un match le lendemain autour d'une heure. Les chances qu'il y ait du monde dans le stade sont à peu près minces. Ce que je veux illustrer là-dedans, Marc, c'est juste qu'on a pris cette photo-là complètement hors contexte pour démontrer la mauvaise saison des White Sox de Chicago. C'est correct, ils ont une mauvaise saison, on peut les critiquer tant qu'on voudra, mais je trouve que c'est un bel exemple, je voulais le dire, de désinformation, d'une image prise hors contexte. Ça s'était passé à Saint-Louis, Marc, ou à Détroit, ou bon, Miami, c'est peut-être pas un bon exemple, mais ailleurs, il n'y aurait pas eu 5000 personnes probablement dans ce match-là, pas à 12 heures d'avis, tu sais, en plein jour, la semaine.
Ben, écoute, bienvenue dans le monde des réseaux sociaux, des informations. Tu as tout à fait raison de le mentionner. Et moi, j'ai déjà vu un match au Yankee Stadium, alors que les Yankees connaissaient une saison remarquable, exactement comme ça. Là. Il n'y a pas 2000 personnes dans le Yankee Stadium. Là. C'est déjà arrivé. Même affaire. Là. Un match qui est à reprendre. Faut le reprendre en l'après-midi, la semaine, alors que personne n'avait prévu ça. Ça va arriver à n'importe quelle organisation. Et là, effectivement, on l'a pris hors contexte. C'était un peu injuste. Malgré que, bon, l'organisation des White Sox mérite peut-être tous les insuccès, mais tu as raison de le mentionner. Puis ça, c'est plat, je veux dire. Mais malheureusement, ça fait partie de notre réalité aujourd'hui, ce genre de situation-là. Que les White Sox n'avaient pas besoin, là, je pense qu'on n'a pas besoin de leur laisser savoir que ça va pas bien cette année. Mais oui, c'est malheureux, mais on tape sur le clou, là, comme ça, puis... On est rendu là, malheureusement.
Ouais, ben écoute, t'as déjà enfoncé, puis certains comiques vont dire que ça ne pouvait pas mieux tomber que sur les White Sox de Chicago cette année et qu'ils l'auront probablement bien mérité. Ça, c'est un commentaire que
Mais finir pour une note plus agréable, Alain. Retour donc de Charles Leblanc avec les Angels.
Oh, oui.
Il était sur la liste des 40, donc c'est pas surprenant, Alain, parce que lorsqu'on l'avait rappelé, il a fallu le mettre sur la liste des 40. Si on avait décidé de le renvoyer puis qu'on était peu intéressé, malheureusement, il aurait subi le même sort qu'Abraham Toro, mais on l'a pas fait. Et donc, on l'a rappelé. Alors, c'est malheureux pour Abraham Toro, qui est retourné donc au niveau 3 maintenant avec les A's d'Oakland. Mais Charles Leblanc, lui, bonne nouvelle, va terminer la saison donc avec les Angels. On sait que depuis hier, en fait, depuis le 1er septembre, on a droit à 2 joueurs de plus. Donc, les formations sont maintenant à 28 joueurs.
Tout à fait, félicitations. Et oui, même si c'était prévisible, on est très, très heureux là, pour Charles Leblanc. C'est temps de vous présenter les matchs de la semaine. Un beau calendrier pour les amateurs de baseball. L'horaire qui est présenté par la boutique des fans, c'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection située à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines de Funko Pop, consultez la boutique des fans.ca. Donc, on verra ce lundi les Red Sox de Boston et Rich Hill contre les Mets de New York. Bon, il y a d'autres attractions que Rich Hill, mais il y sera. Donc, 19h à RDS2, les Mets qui sont à un match d'une place en série des Braves d'Atlanta. Mercredi, un deuxième duel, deuxième série en 10 jours entre Cleveland et Kansas City. C'est à RDS2, notez bien l'heure, 19h30. Et ce dimanche, c'est un duel qui va te plaire, Marc, entre les dynamiques Diamondbacks de l'Arizona et les Astros de Houston. Match présenté à RDS cette fois-ci. C'est à compter de 19h. Évidemment, ça peut être sujet à changement, RDS ou RDS2, dépendant des autres événements. Ça va être très occupé au mois de septembre, donc soyez à l'affût à savoir où exactement les matchs seront présentés. Voilà ce qui complète ce balado. Il reste encore 4 semaines de balle avant la fin de la saison régulière. Les séries vont suivre par la suite. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À très bientôt.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.